France Culture.
On fait le point sur l'information. C'est le journal de la rédaction avec Thomas Cluzel. Rebonjour Thomas.
Rebonjour Marie, bonjour à toutes et à tous. Depuis ce matin, dirigeants politiques et entrepreneurs du monde entier sont à Paris pour un sommet sur l'intelligence artificielle destiné à prendre la mesure de cette révolution. Appelée à être balisée, à défaut d'être réglementée, on tâchera d'en saisir les enjeux, notamment financiers. Et puis avec notre invité, on s'intéressera également au contexte politique dans lequel s'inscrit donc ce grand raout international. À suivre également la proposition de Gérald Darmanin d'organiser une primaire dans le bloc central en vue de la présidentielle de 2027. Nous serons en direct de la cour d'assises spéciale de Paris pour l'ouverture ce matin d'un nouveau procès pour terrorisme. Enfin, l'actualité à l'étranger, c'est notamment la poursuite de la guerre commerciale tous azimuts lancée par Donald Trump. Et puis on détaillera cette crise politique inédite en Colombie où le président vient de réclamer à tous ses ministres de démissionner. Dans un monde où le capitalisme sauvage semble décidément avoir de moins en moins à faire semblant de se soucier du bien commun, est-il encore possible de restaurer une forme de confiance? Cette question se pose avec force, notamment s'agissant de l'intelligence artificielle. Comment promouvoir aujourd'hui une technologie plus transparente et sécurisée, mais sans cadre contraignant? Comment évaluer son impact social, environnemental, encadrer ses opportunités comme ses dangers, mais sans en entraver le développement? Dans un monde fragmenté par les rivalités en tout genre, serait-il même envisageable que les grands acteurs du secteur, milliardaires, pontes de la finance, directeurs des plus grands groupes de commerce, se penchent collectivement sur la question d'une gouvernance mondiale de l'IA? Depuis ce matin, patrons de la tech et dirigeants politiques du monde entier sont donc à Paris pour un sommet international sur l'intelligence artificielle où vous vous trouvez, Valérie Cantier, bonjour.
Bonjour Thomas, bonjour à tous.
Près de 1500 participants au total sont attendus entre aujourd'hui et demain donc pour cette troisième rencontre internationale sur le sujet.
Oui, ce sommet au Grand Palais à Paris intervient après ceux de Bletchley Park en Angleterre en 2023 et ceux de Séoul en Corée du Sud en 2024. Mais depuis ces deux sommets, l'IA a considérablement accéléré tant à ce qui concerne les applications que les innovations et les investissements. Alors d'ailleurs, en ouverture ce matin, l'envoyé spécial de la présidence française, Anne Bouvreau, a déclaré qu'il était temps, je cite, de passer de la science-fiction au monde réel. Les tables rondes s'enchaînent donc ici au Grand Palais sur IA et création, mettre en place une IA inclusive ou encore IA et santé. 1500 participants de très haut niveau. Tous les grands acteurs de l'intelligence artificielle sont présents, comme par exemple Yoshua Bengio, l'un des créateurs de l'IA, et Sam Altman, le patron du robot conversationnel ChatGPT, qui a révolutionné le secteur il y a 2 ans, eh bien, il est là également. Mais ce sommet est aussi très politique. Une centaine de chefs d'État et de gouvernement sont annoncés. Et ce soir et demain matin, place plutôt, on va dire, à la diplomatie. Le vice-président américain J.D. Vance, acteur de la Silicon Valley lui-même, représentera les États-Unis, qui sont numéro 1 dans le secteur. Le numéro 2, c'est la Chine. Eh bien, la Chine sera représentée par le vice-président chinois. On ignore toujours, en revanche, si Elon Musk fera une apparition.
Alors, hier soir, à la télévision, vantant les mérites de cette nouvelle technologie, le président Emmanuel Macron s'est fait le promoteur de l'intelligence artificielle en annonçant pas moins de 109 milliards d'euros d'investissement en France. A-t-on des précisions, Valérie, sur l'origine de ces fonds?
Alors déjà, ce qu'il faut dire, c'est que ce sont des investissements privés. Alors tout d'abord, entre 30 et 50 milliards d'euros viendront des Émirats Arabes Unis pour construire un data center géant, c'est-à-dire des gigantesques bâtiments pour entraîner les IA et collecter des milliards de données. Également, le fonds canadien Brookfield qui va investir 20 milliards d'euros en France d'ici 2030. Cette somme permettra également de développer des data centers. Alors vous me direz, tout ça, ça fait au bas mot 70 milliards d'euros, mais pas plus, vous aurez raison. La quarantaine de milliards restants sera détaillée à la presse dans l'après-midi et annoncée, si tout va bien, par Emmanuel Macron lors de son discours de clôture ce soir. Le secret reste donc bien gardé pour l'instant, car l'IA, c'est un terrain favorable aux annonces et aux effets d'annonces. On se souvient de Donald Trump et des 500 milliards de dollars de Stargate annoncés dès le premier jour de sa prise de fonction. Eh bien, Emmanuel Macron a d'ailleurs affirmé hier soir que les 109 milliards annoncés pour la France étaient égaux en proportion au projet Stargate annoncé par Donald Trump.
Merci Valérie Cantier en direct du Grand Palais. Alors 109 milliards d'euros d'investissement annoncés pour la France, voilà de quoi projeter a priori le pays dans l'avenir, même si en l'occurrence, Valérie le disait à l'instant, beaucoup d'incertitudes demeurent encore autour de ces fonds pour une large partie d'origine étrangère, et ce alors même qu'ils sont censés garantir pourtant notre souveraineté technologique. Et cette annonce, au fond, aussi fracassante qu'elle est encore nébuleuse, pose question, car même si nul ne saurait reprocher à Emmanuel Macron d'être ici dans son rôle de chef de l'État en traçant des perspectives, pour autant, comment ne pas admettre que ce grand raout international est aussi sans doute une occasion rêvée pour le président de reprendre un peu de couleur et de visibilité. Pour en parler avec nous, invité de la rédaction aujourd'hui, Benjamin Morel, maître de conférence en droit public à l'université Paris-Panthéon à Assas. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Avec ce sommet, Emmanuel Macron occupe de nouveau le centre de l'attention médiatique. Autrement dit, malgré sa marginalisation politique depuis la dissolution, est-il excessif d'imaginer que le président puisse chercher une façon de continuer à peser politiquement à travers une initiative comme ce sommet ?
Je suis pas sûr que ce soit tout à fait excessif, en effet. On a un Emmanuel Macron qui essaye d'exister politiquement. Alors, il y a plusieurs voies, hein. On l'a vu ces dernières semaines. Il essaye de se fonder sur des sujets très concernants pour essayer de construire un lien direct avec les Français. Souvenez-vous du Louvre, de la réponse à certains TikTokers, etc. L'autre voie, c'est potentiellement des référendums ou des consultations, et propositions qu'il laisse planer toujours et qu'il a encore laissé planer hier. Et la troisième voie, c'est de se concentrer sur un domaine qui apparaîtrait plus régalien, donc soit sur l'international, soit sur des développements du pays à 50 ans, c'est ce qu'il annonçait lors de ses vœux, à dessein d'être celui qui dessine l'avenir, là où François Bayrou est borné aux questions du quotidien.
Une manière aussi sans doute de faire oublier le blocage politique à l'œuvre aujourd'hui. En fin de semaine dernière, vous avez publié une tribune dans le Figaro dans laquelle vous réfléchissez justement aux facteurs de ce blocage. Vous y soulignez notamment que l'explication des négociations à l'Assemblée s'est beaucoup faite selon deux critères insuffisants à vos yeux. L'esprit de responsabilité des différents camps d'une part, et puis la culture politique du compromis d'autre part. Pourquoi selon vous ces deux notions empêchent de comprendre réellement la situation dans laquelle nous sommes ?
Ce sont des notions qui ont un peu le dos large. D'abord, la notion de culture politique, elle signifie pas grand-chose, encore moins la notion de culture du compromis. En fait, si les socialistes ont toutes les peines du monde aujourd'hui à rentrer dans un jeu qui pourrait être un jeu majoritaire, c'est tout bêtement parce que le mode du scrutin, notamment, fait que les deux tiers du groupe sont sur un siège éjectable si jamais le NFP se brise. Et donc là, les socialistes ont pris un vrai risque. Vous voyez que derrière, ce sont des questions de structure politique, notamment en lien avec le mode de scrutin. De l'autre côté, la notion de responsabilité politique renvoie à la même difficulté. C'est pas être responsable. Si aujourd'hui vous êtes socialiste et que vous tendez les mains à François Bayrou pour un budget, eh bien, vous prenez un vrai risque demain d'être rayé de la carte électorale et donc de ne pas pouvoir imposer un jour votre programme. Or, vous croyez dans ce programme, il en va de même pour les LR. Qui sont aujourd'hui dans une situation de grande fragilité, avec une porosité de leur électorat, avec le Rassemblement National, et dont les marges de manœuvre stratégiques pour survivre, et donc demain faire valoir la vision qui est la leur, sont plus que limitées. Donc c'est vrai qu'on se concentre, on moralise à outrance la vie politique, on la culturalise, là où en fait on devrait penser aux problèmes structuraux qui aujourd'hui grèvent notre capacité d'action, qui sont notamment liés au mode de scrutin et à la structure des partis.
Et en quoi ces deux facteurs, justement, donc l'élection de l'Assemblée au scrutin majoritaire à deux tours et un système partisan sont importants aujourd'hui ? Quelles réponses on pourrait d'ailleurs y apporter ?
Alors, il n'y a pas de bon ou de mauvais mode de scrutin. Un mode de scrutin, il est adapté ou il n'est pas adapté à une situation politique. Quand vous avez une forte bipolarisation, le mode de scrutin majoritaire à deux tours est bien adapté. En revanche, quand vous n'avez pas de bipolarisation, il est inadapté parce qu'en fait, il ne donne pas de majorité. C'est notre mode de scrutin depuis la Troisième République. Il n'a pas donné de majorité avant 1962. Donc, c'est pas inhérent au mode de scrutin. Et aujourd'hui, on n'a plus de bipolarisation. Par contre, il fige les rapports d'alliance dans une situation préélectorale. En d'autres termes, vous avez été élu sur une configuration d'alliance. Si vous en sortez, eh bien, vous prenez un risque vital pour vous, donc vous n'en sortez pas, ce qui paralyse la possibilité de construire des coalitions.
Quant au sujet du système, partisan, en quelques mots.
Ben, en quelques mots, vous ne gouvernez que difficilement contre 50% de l'électorat et un tiers de votre assemblée. Qu'est-ce qui fait tomber la 4e République ? Ben, vous avez 25% à l'époque de communistes, 8% de pujadistes, 4% de gaullistes. C'est 37,5% de votre assemblée qui est gelée parce que ne rentre pas dans des configurations d'alliance. Ça représente la moitié de la population. Aujourd'hui, vous ajoutez 25% de RN et 12,5% de la FI. Ça fait aussi 37,5%. Et donc, par définition, vous construisez des alliances au centre qui sont forcément bancal parce que les partis politiques qui rentrent dans cette logique d'alliance ont tous les coups à prendre de la part des extrêmes et donc sont fondamentalement fragilisés. C'est paralysant, c'était paralysant en 56, c'est encore paralysant aujourd'hui, c'est paralysant dans tous les pays européens où vous avez cette conjonction des centres. Donc aujourd'hui, c'est vraiment un rapport au système de partis qui fait que les coalitions sont complexes à construire.
C'est bien noté. Merci Benjamin Morel, maître de conférence en droit public à l'Université Paris-Panthéon-Assas, d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à Louis Guérin pour la préparation.
Richard Ferrand va-t-il prendre la tête du Conseil constitutionnel ?
C'est aujourd'hui que le président de la République doit proposer le nom du successeur, Laurent Fabius, et un homme fait donc figure en effet de favori. Richard Ferrand, pour ce marcheur de la première heure, ex-président de l'Assemblée, le dernier grognard d'Emmanuel Macron, restait un entremetteur politique influent. Cette nomination serait évidemment une consécration, sauf qu'il devra encore passer l'épreuve du Parlement avant de devenir le premier des sages. Notons d'ailleurs que la présidente de l'Assemblée et son homologue du Sénat doivent eux aussi procéder chacun à une nomination, mais c'est bien le choix du chef de l'État pour présider l'institution qui recouvre le plus d'enjeux. Pourquoi ? Tout d'abord parce que la décision d'Emmanuel Macron apparaîtra comme un premier héritage à la veille de la fin de son propre bail à l'Élysée, et ensuite parce que personne aujourd'hui dans la classe politique ne se hasarde plus à exclure la possibilité de l'accession au pouvoir de Marine Le Pen. Or le RN, on le sait, s'est régulièrement montré critique du juge constitutionnel.
Et c'est notamment pour contrer justement Marine Le Pen que Gérald Darmanin souhaite désigner un candidat unique au centre dans la perspective de 2027.
Oui, avec une multitude de potentiels candidats, le ministre de la Justice s'est dit favorable hier à l'option d'une primaire ouverte du camp macroniste jusqu'aux Républicains, sans quoi il redoute une élimination du bloc central et de la droite dès le premier tour. Sauf que cette idée, Antoine Maretz, est loin en réalité de faire l'unanimité.
La primaire n'a pas laissé de bons souvenirs à droite. François Fillon en 2017, Valérie Pécresse en 2022... Et au centre, la candidature d'Emmanuel Macron lors des deux dernières présidentielles s'est faite de façon spontanée. En 2017, c'est de lui-même que François Bayrou a renoncé à se présenter, soutenant le futur chef de l'État. Dès lors, la primaire a mauvaise presse dans ces deux familles politiques et une entente sur les modalités d'une primaire élargie aurait probablement du mal à voir le jour. Dans les deux camps, les candidats potentiels ne manquent pas. Gabriel Attal, du côté de Renaissance, incarnation du centre, lui-même venu de la gauche. Édouard Philippe, chez Horizon, a déjà annoncé sa candidature à la présidentielle. Lui, c'est un centriste venu de la droite. Tout comme Gérald Darmanin, dont la fibre régalienne mord sur les aspirants de LR. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, beaucoup plus conservateur, pourfendeur du wokisme et de l'islamisme, et le chef de file des députés LR, Laurent Wauquiez, également libéral conservateur. Cela fait beaucoup de candidats potentiels, avec des sensibilités politiques très différentes. Ces personnalités pourraient-elles s'entendre sur un programme commun minimum, s'entendre sur les modalités de sélection de leurs candidats, et pour finir, soutenir celui qui remporterait cette primaire ? Si toutefois tout le monde est d'accord sur la nécessité de n'avoir qu'un seul candidat pour le centre et la droite au premier tour de la présidentielle.
Un nouveau procès pour terrorisme s'est ouvert aujourd'hui devant la cour d'assises spéciale de Paris.
Depuis 10h ce matin, Brahim Aouissaoui, 25 ans, l'auteur présumé de l'attentat de la basilique de Nice qui a fait 3 morts en 2020, comparé pour assassinat et tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste. Le matin du 29 octobre, ce jeune Tunisien armé d'un couteau avait quasiment décapité une première victime, puis en avait mortellement blessé une autre avant d'égorger le sacristain. Margot Steve, bonjour.
Bonjour.
Brahim Aouissaoui, encore une peine de réclusion criminelle à perpétuité. Vous avez donc assisté ce matin, Margot, à cette première audience.
Oui, une audience qui s'est ouverte il y a un peu plus de 2 heures avec déjà un premier incident. Interrogé par le président il y a quelques minutes, Brahim Aouissaoui assure, comme il l'avait fait tout au long de l'enquête, n'avoir aucun souvenir des faits. Sur le banc des parties civiles, un cri surgit. « Va te faire foutre !» lance un proche de victime. Un début d'audience tendu qui donne le ton de ce procès où la question de la santé mentale de l'accusé sera centrale. Dès les premières minutes d'audience, Brahim Aouissaoui semble perdu dans le box. Dreadlocks, collier de barbe, il décline son identité en arabe, traduit par un un interprète, mais n'est pas capable de donner le nom de son avocat assis juste devant lui. Il bâille ensuite d'un regard absent les bancs des parties civiles où ont pris place les familles des trois victimes tuées, mais aussi des représentants de l'Église, dont l'évêque de Nice et le président de la Conférence des évêques de France, venus assister à cette première journée d'audience. Un procès très attendu par les proches de victimes qui attendaient de voir si la position de l'accusé avait évolué. Si l'on en croit ses premières déclarations, ce n'est pas le cas et c'est un choc pour les familles, a regretté à l'instant l'un des avocats de partie civile. Lui estime que cette amnésie n'est qu'une supercherie. Des experts seront entendus dès demain à ce sujet.
Oui, je précise que le procès est prévu pour durer jusqu'au 26 février. Merci Margot Steve en direct de la Cour d'assises spéciale de Paris avec Raymond Albouy pour les moyens techniques.
12h45, la suite de votre journal, Thomas Cluzel.
Depuis son investiture à la Maison-Blanche, les droits de douane présentés autant comme un moyen de résorber le déficit commercial de son pays que d'obtenir des concessions de la part de ses concurrents sont au cœur même de la politique à la fois économique et diplomatique de Donald Trump. Et à l'évidence, le président américain a bien l'intention de poursuivre son offensive commerciale. Hier, il a annoncé qu'à partir d'aujourd'hui, donc des droits de douane de 25% sur tout l'acier seraient mis en place pour l'acier donc arrivant aux États-Unis et que le même sort serait réservé dès demain à l'aluminium. L'explication de Camille Magnard.
Plus 25% du jour au lendemain sur toutes les importations d'acier et d'aluminium, c'est la promesse de Donald Trump et ça devrait toucher au premier chef les grands voisins et partenaires que sont le Canada et le Mexique. L'industrie automobile américaine, qui est bien souvent à cheval sur les trois pays, pourrait en subir très vite les conséquences. C'est l'aspect contre-productif de cette obsession des taxes douanières qui est au cœur de la manière dont Donald Trump pense ses relations aux autres pays. Il assure vouloir protéger l'économie de son pays, mais oublie que les énergéticiens par exemple, dépendent de types d'acier qui ne sont pas produits sur le sol des États-Unis. Il faut donc s'attendre derrière la communication très simpliste et martiale de Trump qu'il y ait des arrangements, des exemptions de douane. Et c'est bien là la manière dont fonctionne l'art de la transaction trumpiste. Les négociations sous pression de ces barrières douanières dressées de manière si soudaine et agressive obligent à des pourparlers bilatéraux avec tous les pays partenaires économiques pour leur arracher des concessions à l'avantage de l'économie américaine. Les Japonais et Taïwanais, par exemple, ont calmé les menaces de surtaxe la semaine dernière en promettant des achats records de gaz liquéfié américain. Quant au Canada, cela fait des jours que Donald Trump insiste sur le fait qu'il veut un accès facilité pour les banques américaines sur le marché bancaire canadien. Ça pourrait être la monnaie d'échange pour apaiser cette guerre commerciale que promet le président des États-Unis à ceux qui n'accepteront pas de céder face aux intérêts américains.
Lui doit faire face à l'hostilité déclarée de l'administration Trump.
Lui, c'est le premier ministre du Kosovo dont le parti social-démocrate est en passe de remporter les élections législatives. En revanche, Albin Kurti serait loin de la majorité absolue, ce qui signifie qu'il pourrait devoir se trouver des alliés. Reste à savoir quelle coalition sera possible. En clair, la formation d'un gouvernement pourrait prendre des semaines, voire échouer et ainsi provoquer un nouveau scrutin.
Direction à présent la Colombie, traversée par une crise gouvernementale inédite.
Oui, hier, le président de gauche, Gustavo Petro, a demandé à tous ses ministres, de même qu'aux fonctionnaires, de remettre leur démission. Pourquoi officiellement il s'agit de mieux répondre aux attentes de la population. Isabelle Labéry, bonjour.
Bonjour.
En réalité, tout a commencé la semaine dernière avec une réunion tendue, sinon chaotique, même du gouvernement. Réunion retransmise en direct à la télévision.
Une diffusion très inhabituelle sur les réseaux sociaux et plusieurs chaînes publiques comme privées à une heure de grande écoute, ce qui a pulvérisé les résultats d'audience. Il faut dire que le spectacle était au rendez-vous, digne des telenovelas dont sont friands les Colombiens. Pendant près de 6 heures, le président et ses ministres ont étalé au grand jour jalousie, désaccords et reproches. Une vraie séance de cirque, juge même le quotidien progressiste El Espectador, qui accuse le premier président de gauche de Colombie de vouloir masquer son incapacité à mettre en œuvre ses réformes sociales ambitieuses, alors que sa popularité est au plus bas. La réunion conduite par Gustavo Petro était en effet destinée à faire le point sur le manque d'efficacité de ses différents ministères.
Le président est révolutionnaire, mais le gouvernement Lui ne l'est pas. Il ne rompt pas. Il ne change rien. Il suit les mêmes lignes de la tradition politique. Et ça, c'est pas possible. 75% des promesses du président faites en Conseil des ministres n'ont pas été tenues.
À l'ordre du jour, déjà délicat, a en plus été bousculé par la présence d'Armando Benedetti, chef du cabinet présidentiel, personnage sulfureux qui fait l'objet d'une plainte pour violence à caractère sexiste et d'une enquête pour corruption. Sa nomination passe très mal auprès des membres du gouvernement. Au final, en raison de ces tensions internes, 3 ministres et 2 hauts fonctionnaires ont démissionné avant même que le président ne leur demande, notamment la ministre de l'Environnement, Susana Muhammad, considérée comme successeur possible de son projet politique, alors que Gustavo Petro doit quitter le pouvoir l'an prochain.
Merci Isabelle Labéry. En Équateur, là-bas, le président sortant en guerre contre le crime organisé et sa rivale de gauche se livrent depuis hier soir à un duel tendu à l'occasion du dépouillement du premier tour de l'élection présidentielle. Selon des résultats encore partiels, l'un et l'autre seraient crédités de moins d'un point d'écart, ce qui devrait conduire donc à un second tour. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi, marqué par des pluies et de la grisaille sur l'ensemble du territoire. Quant aux températures, elles seront comprises entre 2 et 13 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Pommet. À 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.